VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Au Togo, les discussions au dialogue ouvert lundi à Lomé entre le pouvoir et l'opposition après 6 mois de crise politique dans le pays, suspendues jusqu'à vendredi. Mais les premières avancées ont déjà été enregistrées au terme d'une longue journée de pourparlers hier. Les débats se sont déroulés à huis clos en présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo, facilitateur dans la crise. Et les discussions étaient largement dominées par les mesures d'apaisement exigées par l'opposition. Le retour à la Constitution de 1992, principale revendication des opposants, sera également examiné une fois franchie l'étape des mesures d'apaisement. Les deux parties ont convenu que la délégation gouvernementale sera la bienvenue aux discussions. Par ailleurs, le pouvoir et l'opposition ont aussi accepté de suspendre les manifestations dans le pays jusqu'à la fin du dialogue qui doit durer une dizaine de jours. En plus du rétablissement de la Constitution de 1992 qui prévoyait un maximum de 2 mandats présidentiels, l'opposition tient aussi à une transition politique et des réformes électorales. En Guinée, la grève des enseignants entre dans sa 2e semaine. Des élèves ont manifesté lundi à Conakry pour exiger la reprise des cours, alors que le gouvernement menace de son côté de couper les salaires des enseignants grévistes. Le reportage de notre correspondant sur place, Zakaria Camara.
Le gouvernement guinéen parle de démarches, d'explications, des règles régissant le dialogue social, mais aussi de sacrifices consentis par l'ensemble des partenaires sociaux pour aboutir à des avancées majeures. Dans une communication publiée dimanche, il appelle à la fin de la grève avant de menacer de ne pas payer le salaire de tout enseignant qui persiste à ne pas se rendre en classe. Toute tentative de reprise a été repoussée par des manifestants à Conakry. Le lycée Boubacar Biro est l'une des rares écoles où les cours ont été dispensés, mais après des heures avec les défenseurs de la grève. Alexandre, élève de terminale.
Ceux qui n'étudient pas, parfois ils se mettent contre nous, ils se fâchent, ils viennent pour nous perturber. On a sensibilisé nos camarades d'élèves, on leur a dit on sera confronté à tout problème. Donc attendez-vous à tout. On savait, quel que soit un jour, ils pouvaient y arriver. Ils sont venus, on les a repoussés, ils sont repartis. Et les cours ont continué.
C'est le proviseur du lycée qui a demandé aux élèves de venir suivre les cours. Alassane Bereté ne semble pas partager le mot d'ordre de grève.
S'ils ont des enfants en Hongrie, en Espagne, en Hollande, qui laissent les enfants et les autres étudier. Vous voyez ici des vieilles qui sortent le matin à 5h du matin. Il y a des vieux au champ à l'heure où je vous parle. Ce sont ces enfants à qui nous avons au lycée ici. Comment un seul individu est perturbé l'avenir et ses enfants-là.
Le gouvernement avait annoncé un dispositif de sécurisation des écoles et menacé de traduire devant la loi toute personne interpellée dans une tentative de perturbation des établissements scolaires. Dans plusieurs endroits de la capitale, des jeunes manifestants ont utilisé des pierres contre les éléments des forces de l'ordre. Selon le porte-parole de la gendarmerie nationale, un gendarme a été tué. Conakry, Zakaria Camara, VOA Afrique.
Tchad, un militant et porte-parole du mouvement citoyen tchadien Iyina, qui appelle à manifester depuis fin janvier contre la malgouvernance, a été arrêté lundi à N'Djamena, alors qu'il s'apprêtait à brûler un tas de pneus, selon la police. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Alain Kembadida, c'est de lui qu'il s'agit, avait une bouteille d'essence à la main. Il s'apprêtait à brûler un tas de pneus au moment de passer à l'acte. Un commandant de police qui passait l'a surpris. C'est ainsi qu'ont été décrites les circonstances de l'arrestation de l'activiste tchadien par le porte-parole de la police. Amnesty International sur place a jugé les raisons évoquées insuffisantes et demandé la libération immédiate ou l'inculpation formelle d'Alain Kembadida sur la base de charges reconnues par le droit international. Monsieur Kembadida est un porte-parole du mouvement citoyen IINA, qui signifie « on est fatigué » en arabe tchadien. Il fait partie des porte-paroles des organisations de la société civile qui appellent à manifester depuis fin janvier au Tchad contre l'austérité et la malgouvernance. En avril 2017, 2 membres d'IINA, aujourd'hui en exil, avaient été arrêtés, torturés et détenus au secret sans charge, puis inculpés de troubles à l'ordre public et incitation à la révolte. Ils avaient invité la population à exprimer son mécontentement face à la situation politique et économique lors d'une journée IINA le 10 avril, un an après la présidentielle ayant abouti à la réélection du président Idriss Déby.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le processus électoral en RDC maintenant, les évêques catholiques demandent à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, de lever tout équivoque et suspicion autour de la machine à voter électronique en permettant sa certification par des experts nationaux et internationaux. Cette requête est formulée alors que le débat autour du vote électronique continue malgré les assurances de la Commission électorale. Plus de précisions avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'introduction de la machine à voter dans le système électoral congolais ne fait pas l'unanimité. Cela prédit des contestations des résultats des prochaines élections, a déclaré en conférence de presse le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Selon l'abbé Donatien Cholet, la certification de cette machine par des experts nationaux et internationaux participerait de la clarification du processus électoral. Pour rappel, certains pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU avaient déjà exigé le test de cette machine avant son utilisation lors des élections. Réagissant sur Top Congo FM à cet appel des évêques catholiques, Corneille Nanga, le président de la Commission électorale nationale indépendante, rassure, je cite, « La CENI bénéficie de l'appui massif en termes d'assistance électorale d'experts tant nationaux qu'internationaux. Nous avons la présence de 52 experts internationaux qui sont nos conseillers techniques et qui nous assistent. S'il y a d'autres experts qui vont encore s'ajouter, ils sont tous les bienvenus. » Fin de citation. Le président de la centrale électorale congolaise rappelle par ailleurs que l'utilisation de la machine à voter n'a rien à voir avec le vote électronique. Il est impossible aujourd'hui d'organiser un vote électronique en République démocratique du Congo. Le vote que nous proposons avec la machine, c'est un vote à papier. Ce n'est pas la machine qui fera le comptage des voix. Le comptage des voix va se faire manuellement comme cela a toujours été fait. Le seul résultat qui sera noté sur les procès-verbaux est le résultat dépouillé manuellement devant témoins dans tous les bureaux de vote, souligne Corneille Nanga. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Burundi, plus de 5 millions de Burundais se sont inscrits sur les listes électorales pour le référendum constitutionnel controversé prévu en mai et les élections générales de 2020. C'est ce qu'annonce le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, cité ce mardi par des médias locaux. La commission n'attendait pas plus de 4,5 millions d'inscrits. Selon le gouvernement, l'affluence enregistrée s'expliquerait par l'engouement et le sens patriotique des citoyens burundais qui sont les initiateurs de ce référendum constitutionnel, souligne Bujumbura. En Afrique du Sud, l'un des frères de la sulfureuse famille Gupta conteste le gel de ses biens à hauteur de 700 000 euros par la justice. Les frères Gupta sont au cœur d'un vaste scandale de corruption dans lequel est impliqué l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Les détails avec Ekia Badou.
Selon Louvuyo Mfaku, porte-parole du parquet sud-africain, Atal Gupta a demandé à la justice de revoir sa décision de geler des biens d'une valeur de 700 000 euros. Il dément avoir profité d'un projet d'exploitation laitière qui ne s'est jamais réalisé dans la province du Free State. Le parquet doit faire connaître sa décision demain, mercredi. La semaine dernière, la police a perquisitionné la résidence des Gupta à Johannesburg. 8 personnes ont été arrêtées. La police a aussi émis un mandat d'arrêt contre un autre frère Gupta, Ajay, dans une affaire de détournement de fonds. Le ministre de la police, Fikile Mbalula, précise que 5 personnes sont recherchées dans un vaste scandale lié à la famille d'origine indienne. Selon un rapport de la médiatrice de la République publié en 2016, les Gupta sont impliqués dans la gestion des affaires de l'État, de la nomination de ministres aux pressions pour obtenir de juteux contrats publics. La semaine dernière, le président Jacob Zuma, un ami des Gupta, a été forcé à la démission.
À New York, le président palestinien Mahmoud Abbas prononce aujourd'hui une rare allocution devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour appeler à une reconnaissance de la Palestine comme État membre des Nations Unies et rejeter une médiation unique des États-Unis dans le processus de paix israélo-palestinien. Selon des officiels palestiniens, Mahmoud Abbas va appeler à des négociations avec Israël dans un cadre élargi et pas sous l'égide principale des États-Unis. Il va aussi dénoncer à nouveau la décision américaine de reconnaître unilatéralement Jérusalem comme capitale d'Israël. Et pour terminer, toujours ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump a fait savoir lundi qu'il soutenait un renforcement du contrôle des antécédents des acheteurs d'armes à feu face à la colère d'une partie de la population choquée par la nouvelle fusillade meurtrière dans un lycée de Floride la semaine dernière qui a fait 17 morts, dont une majorité d'adolescents. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Au coco.